enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Psaume 91, dans notre série de messages sur les psaumes que nous intitulons Psaume 2005, parce que nous nous retrouvons dans les psaumes. Des centaines d'entre vous ont envoyé des emails pour nous dire que vous avez commencé, tel qu'on a proposé, à lire les psaumes, que vous êtes en même temps que nous à lire les psaumes. Et nous nous retrouvons dans les psaumes. Lorsque nous regardons au contexte des psaumes, nous nous retrouvons dans les psaumes. J'ai reçu une lettre il y a quelques semaines qui m'a beaucoup fait, m'a beaucoup béni, mais m'a beaucoup fait réfléchir. C'était une lettre beaucoup plus longue, j'en ai juste pris des extraits. C'est un jeune avocat. Alors, je pense qu'il est ici ce matin. Il est éloquent et il a le franc-parler des jeunes hommes de sa génération. Il est très direct dans toutes sortes de choses. Alors, j'ai enlevé certaines portions qui étaient particulièrement directes. Mais j'en ai laissé quelques-unes et c'est justement vous compreniez l'esprit de sa lettre. Il m'a beaucoup fait réfléchir, m'a beaucoup touché, m'a motivé à croître la prière et toute cette dimension de responsabilité que nous avons semaine après semaine comme pasteur d'ouvrir la parole de Dieu et à quel point nous sommes reconnaissants devant Dieu pour sa parole qui est si vivante, mais comment ceux qui la communiquent doivent le faire d'une façon qui touche les cœurs. Ce n'est pas dans un esprit de comparaison qu'il écrit ou quoi que ce soit, et c'est pas pour diminuer qui que ce soit, c'est simplement son témoignage à lui, et je sais par les courriers de plus en plus volumineux qu'on reçoit à cet égard, à cause de l'émission de radio que nous avons, qu'il n'est pas le seul, que cet homme représente des centaines et centaines de personnes qui cherchent la parole de Dieu, communiquer de manière qui touche le cœur. Et c'était simplement un baume sur mon cœur, je vais vous lire son témoignage dans un instant, de réaliser à quel point beaucoup de gens qui ont écrit pour simplement dire, en lisant les psaumes, en écoutant vos messages sur les psaumes, je réalise comment est-ce que c'est pareil comme nous, comment je me retrouve dans les psaumes. Moi, j'aime les psaumes, parce que je me retrouve dans les psaumes. Cet homme écrit, « Cher pasteur, j'ai honte, je ne suis pas fier de mon témoignage, mais en même temps, Dieu a fait un grand miracle dans notre couple. Je suis un jeune avocat de 29 ans. Ma carrière va extrêmement bien. J'ai marié une femme que j'aime passionnément et qui me comble. J'ai grandi sans aucune notion de Dieu. Puis, il y a 15 ans, mes parents sont devenus chrétiens dans une église évangélique. Je suis allé à l'église toute mon adolescence et j'ai donné ma vie au Seigneur. Je comprends l'Évangile, j'aime Dieu et je me suis beaucoup donné aux églises dans ma jeune vingtaine. Je suis un homme très occupé et voici ce qui me fait honte. J'avais complètement arrêté d'aller à l'église parce que je trouvais ça plate. Pas de vie, pas d'humour, semblait pas de préparation. Je voyais et écoutais de meilleures présentations à mon bureau la semaine par des avocats que le dimanche. Ma compagnie est très axée sur l'excellence, la performance, la qualité, le dynamisme, l'amélioration des services. J'étais amer, désabusé et tout simplement tanné d'aller à l'église. Les prédications ne se rendaient pas à moi. Je m'ennuyais. C'est comme si il n'y avait pas de préparation ou comme si les messages ne s'adressaient même pas à nous, l'auditoire. Souvent, je regardais tout le monde en silence, dormant pendant les messages, semaine après semaine, et j'avais le goût de crier « C'est plate !» Ma femme et moi, on a décidé de ne plus y aller. Pas d'un coup, mais peu à peu. Ce que je ne réalisais pas, c'est que ça nous ferait un tel tort à mon épouse et moi. Elle a arrêté d'aller à l'église, elle aussi. Depuis 2 ans, on était de plus en plus occupés, chacun de notre côté. On a développé des cercles d'amis, des activités à part. On faisait des sorties dans les restos, les spectacles. On prenait des vacances de gars et des vacances de filles séparément. On essayait différentes églises de temps en temps le dimanche, mais nous étions morts. On avait tout, carrière, maison, standing, voiture, amis, promotion, mais on n'était pas heureux et on se chicanait de plus en plus. Une bombe a éclaté en janvier 2005. Ma femme a avoué qu'elle tombait en amour avec un homme à son travail. J'étais démoli, et elle aussi. Et elle pleurait et disait, « Il ne s'est rien passé, mais on a besoin de Dieu dans nos vies. » Ce dimanche-là, on est allé à Nouvelle Vie pour la première fois. J'ai plusieurs clients et amis qui m'en avaient parlé, mais je n'avais jamais été dans une église si grande. Dans notre mouvement, s'il y a 100 personnes, c'est une très grande église. Le choc. Mais le message nous parle. On comprend, on rit, on pleure. Ma femme et moi sommes allés en avant la première journée et on est revenus le soir, une première dans toute notre vie chrétienne. C'est comme si les messages sont tous pour nous. Je rencontre des gens de tous les âges, de tous les arrière-plans, puis on est boosté lorsque nous allons à l'église. Ça fait 6 mois que Nouvelle Vie est notre église. Cela a sauvé notre couple et aussi notre relation avec Dieu. C'était mal ce que j'avais fait. Je blâme personne d'autre. Je n'aurais jamais dû quitter l'église. Mais je voulais vous écrire simplement pour encourager toute l'équipe pastorale et tous les ministères à continuer. Les messages sur les psaumes me bénissent tellement. Ma femme a invité ses 2 sœurs qui étaient rétrogrades et les 2 reviennent à l'église depuis 1 mois. Elles avaient tout laissé, elles aussi, mais elles sont revenues et elles ne manquent pas un dimanche. Je me mets maintenant sur le cas de mes 2 beaux-frères. Combien croient qu'il y a 2 beaux-frères qui vont recevoir quelque chose, hein? Qui n'ont pas de chance? Merci Seigneur pour sa parole qui est si vivante et si passionnante lorsqu'elle est appliquée à nos vies. Combien sont reconnaissants simplement pour le fait que la parole de Dieu, c'est pas plate. C'est quelque chose de vivant, de merveilleux, de puissant. Là, je me retrouve dans les psaumes. La raison pour laquelle nous retrouvons tellement, ils sont si vivants ces psaumes, c'est la vie, le contexte de ceux qui les ont écrits. Nous avons souvent des images que c'est des chansons, les psaumes, et que les psalmistes, des poètes assis en dessous d'un arbre, en mangeant une pomme et en composant avec leurs plumes dans l'encre. Une chansonnette. Je vais vous dire qu'il y a des psaumes qui sont des psaumes de gloire, où ils étaient dans la gloire de Dieu, ils ont composé. Mais il y a aussi, si je peux prendre une image, il n'y a pas juste des hommes assis en dessous d'un arbre à composer une toune qui écrivent des psaumes. Il y a des psaumes qui ont le dos, il y a des psalmistes qui ont le dos au mur, avec un ennemi qui s'en vient et qui l'entoure de tous les côtés, le cœur qui bat la chamade. Il y a ça aussi dans les psaumes. Il y a des psaumes de gloire, il y a des psaumes de guerre, comme dans nos vies. Des psaumes qui sont nés dans la communion alors que tout va bien entre tous, puis il y a des psaumes qui sont nés dans le conflit. Il y a des psaumes au milieu des acclamations des frères, alors que le psalmiste dit c'était tellement merveilleux, alors que tous les frères étaient tellement bénis. Il y a des psaumes au milieu des accusations. Il y a des psaumes d'inspiration. Il y a des psaumes au milieu de l'incompréhension. Il y a des psaumes de célébration. Le temple, dédicace, des grands moments, la musique, les chorales. Mais il y a des psaumes dans les cavernes. Il y a des psaumes qui sont spécifiquement écrits, on le sait historiquement. Alors, par exemple, que David était dans la caverne d'Abdulam, alors qu'ils étaient un groupe d'hommes, de femmes, de familles qui étaient là et qui veulent faire quelque chose pour Dieu, mais il y a beaucoup de trépidation, il y a beaucoup d'inquiétude, ils se sentent petits, ils se sentent tellement insécurisants. Mais ne vous trompez pas, ne vous méprenez pas sur ce qu'il y a dans cette caverne. Dans cette caverne, il y a le royaume de Dieu qui s'apprête à éclater de manière magnifique. Alors, il y a des psaumes de célébration, mais des psaumes dans les cavernes. Il y a des psaumes dans des moments d'adoration à l'Éternel et des psaumes au milieu des attaques de l'ennemi. Des psaumes de compassion, alors que, touché par la douleur qui l'entoure, le psalmiste écrit et déverse son cœur devant Dieu. Mais il y a des psaumes aussi de conviction, où là, il faut faire quelque chose. Il y a des psaumes de succès pour le Seigneur. Mais presque, si vous faites l'historique, il y a un des livres que j'étudie dans cette série, c'est une brique dont l'auteur s'est appliqué à essayer de trouver tout, à donner tellement de contexte aux psaumes et dans leur chronologie. Et c'est saisissant de voir le nombre de psaumes de succès qui sont précédés par le même auteur, par des psaumes de silence. Dieu, où est ta réponse? Des psaumes de solitude, des psaumes de souffrance. C'est pour ça que nous nous retrouvons dans les psaumes, parce que nous aussi, dans nos vies, nos périodes de grand succès sont entrecoupées par des moments de silence, de souffrance, de solitude. Des psaumes parce que nous sommes bénis, des psaumes parce qu'il faut bâtir. Des psaumes de faiblesse, des psaumes de frayeur, mais aussi des psaumes de ferveur, de fermeté et de foi. Des psaumes de délivrance, mais aussi des psaumes de décision et de nouvelle direction. Des psaumes personnels, j'écris, voici ce que j'ai vécu, mais aussi des psaumes écrits par plusieurs alors que ensemble nous avançons. Alors que nous sommes au 12e anniversaire de Guise Velvi, dans les derniers 12 ans, nous avons écrit un psaume ensemble. Nous avons écrit un psaume à la francophonie. Et il est possible de voir Dieu faire de grandes choses. Je peux vous dire amen. Et vous avez tous participé à ce psaume. Des psaumes de délivrance, mais aussi des psaumes de décision. Des psaumes personnels, mais aussi des psaumes par plusieurs. Des psaumes... Lorsque nous sommes nourris et en paix, ça va bien, je reçois la parole, je suis touché, nourri et en paix. Mais aussi des psaumes, parce qu'il faut donner naissance à un peuple, en dehors de l'Église, des gens qui ont besoin de Dieu. Des psaumes parce que des serviteurs imparfaits sont invités à l'invisible et à un impact illimité. Tournez-vous vers quelqu'un et dites-lui, je t'ai trouvé dans les psaumes. Dites ça à la personne près de vous. J'ai regardé dans les psaumes, je t'ai vu. Des psaumes comme le psaume 91, où nous nous retrouvons ce matin. Celui qui demeure, il est sur l'écran, le verset 1 dans votre Bible, mais il est tout ça à l'écran. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, où nous lisons ce psaume de protection, de révélation, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu marcheras sur le lion, sur la vipère, sur le lionceau et sur le dragon. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai. Je lui ferai découvrir mon salut et je lui ferai contempler mon pardon. Nous avons vu ensemble que c'est un psaume qui nous appelle à demeurer. Ceux qui vont être près de Dieu, ceux qui vont demeurer. Yachab dans l'hébreu, qui vont être prêts en communion avec Dieu, vont avoir ce discernement pour voir les trappes, mokesh, les filets, les trappes de l'ennemi. C'est pourquoi nous l'appelons un psaume de protection, de révélation. Nous avons étudié et découvert ensemble que c'est ceux qui habitent en présence de Dieu, ceux qui habitent qui deviennent, pas seulement ceux qui sont de passage ou qui sont là sporadiquement ou qui sont des touristes dans la présence de Dieu qui viennent faire un petit tour et s'en vont, mais ceux qui habitent deviennent des héros. C'est ceux qui sont en communion qui vont combattre pour Dieu. C'est ceux qui prient qui sont protégés. C'est ceux qui demeurent qui vont trouver le discernement. Nous avons vu quatre trappes dans le psaume 91 qui sont symboliquement, figurativement, typologiquement présentées comme un lion, une vipère, un lionceau et un dragon. Que nous sommes appelés à avoir autorité dans ces quatre sphères d'attaque ou de trappe de l'ennemi. Nous avons vu que la vipère représente un piège soudain qui attaque la promesse de Dieu. La série entière est disponible. Toutes les notes qui apparaissent à l'écran sont disponibles pour ceux qui veulent se nourrir de cette série. Vous voulez l'écouter dans votre voiture, vous avez manqué un message. La vipère représente le piège soudain qui attaque la promesse de Dieu. Le jeune lion représente un piège sournois qui attaque la pureté de Dieu. Le lion représente un piège satanique qui attaque les plans de Dieu. Et nous avons vu la semaine dernière, nous avons débuté la semaine dernière, on a commencé à apprendre à marcher sur le dragon qui représente le piège silencieux qui attaque la paix de Dieu, représente l'imaginaire, le combat dans les pensées. Le psalmiste dans le psaume 91 est décrit comme ceci. « Tu ne craindras plus les flèches qui volent la nuit. » L'épidémie des terreurs de la nuit. Dans le psaume 92, il est dit ainsi. « Il est bon de proclamer tes bontés, de déclarer ta miséricorde le matin, mais aussi d'apprendre à chanter la fidélité de Dieu pendant l'éveil de la nuit. » D'apprendre à chanter la fidélité de Dieu. Nous avons chanté « Tu es fidèle » ce matin dans un chant magnifique que Stéphane a composé. Mais la maturation chrétienne est de le chanter lorsque je suis seul, lorsque je suis hors de l'Église, lorsque je suis dans un moment de ténèbres, lorsque les flèches de la nuit m'atteignent, lorsque dans mes pensées à la maison, les instruments se sont tus et c'est maintenant moi et Dieu, moi et ma maison, moi et ma famille, moi et ma situation, moi et ma maladie, moi et mes dettes, moi et mon passé. Et le désir de Dieu, c'est de nous apprendre à chaque jour à marcher sur le dragon et à chanter sa fidélité pendant l'éveil de la nuit. Chanter sa fidélité. Et c'est un message tellement d'équiper des gens à être victorieux, à être paisibles, à être des conquérants dans le domaine de leur pensée, est extraordinairement important en 2005. Vous comprenez que le dragon, pour prendre la figure biblique, les attaques des pensées sont à la racine de la province de Québec qui a le plus haut taux de suicide adolescent dans le monde entier. Entre la semaine dernière et cette semaine, une moyenne de 3 par jour qui s'enlèvent la vie dans la province de Québec. On est rendu maintenant à plus de 1200, 1300 par année. Il y a certaines années que c'était 1500 personnes. Et à chaque jour, à quelque part, entre hier matin, ce matin, quelque part dans la province de Québec, le dragon qui tourmente un jeune homme ou une jeune fille à un tel point qu'il ne voit plus aucune solution que de s'enlever la vie juste pour mettre fin au tourment du dragon. Est-ce que vous me suivez? Parce que nous parlons du dragon, on parle pas de quelque chose qui est mythologique dans le passé, on parle de quelque chose qui est ici présent. La figure est symbolique, mais elle représente quelque chose de très, très réel. On parle de gens qui sont en dépression. Ça se passe dans leur cœur et leur pensée. On parle de personnes qui sont en épuisement de travail professionnel, en burn-out. On parle de personnes qui boivent avec excès, qui sont alcooliques ou qui sont toxicomanes parce qu'ils ne peuvent pas tolérer de vivre la vie. Ils ne sont pas capables de faire face au dragon de leur pensée sans s'anesthésier, sans s'étourdir, sans geler. Je ne suis pas capable de faire face à la vie à jeun. On parle de personne, c'est lorsqu'on parle du dragon, on parle de nos pensées, de choses qui ont des ramifications dans tout ce que nous faisons. Dans notre santé, on parle d'ulcères, on parle de crise de cœur, on parle d'inquiétude, on parle d'angoisse, on parle de sentiments de honte. L'appel des pensées, l'appel, le champ de bataille des pensées, quelque chose qui est reconnu depuis toujours dans l'histoire. Tous les penseurs de l'histoire l'ont reconnu. La Bible l'enseigne puissamment, mais tous les penseurs de l'histoire l'ont reconnu. De 120 ans, 121 avant Jésus-Christ, Aurelius Antoninus disait, nous sommes façonnés par nos pensées. Nous devenons ce que nous pensons. Lorsque notre esprit est pur, la joie suit comme une ombre qui ne partira jamais. Russell lui a dit, nourrissez vos esprits de pensées grandioses. Car croire en ce qui est héroïque engendre des héros. Si vous remplissez votre cœur et vos pensées de générosité, de pardon, de noblesse, de grandeur, de foi, de confiance, ça va engendrer des comportements et des vies dans cette direction. Évitez la pensée destructive, dit Vincent Peale, un des hommes qui a été appelé par Time Magazine, un des hommes les plus influents du 20e siècle. Des pensées négatives inappropriées font sombrer les gens. Un bateau peut naviguer autour de la terre maintes fois, mais laisser entrer juste assez d'eau pour que le bateau finisse par couler, il en est ainsi de l'esprit humain. Laisser entrer juste assez de pensées négatives ou inappropriées et la personne sombrera tel un bateau. Un auteur inconnu qui a dit, « Vous êtes aujourd'hui là où vos pensées vous ont amené. Vous serez demain là où vos pensées vous amèneront. Vous ne pouvez pas échapper aux résultats de vos pensées. » Byron Edwards a dit, « Les pensées engendrent nos intentions. Nos intentions se traduisent en actions. Nos actions forment nos habitudes et nos habitudes déterminent notre caractère et notre caractère dicte notre destinée. » René Descartes l'a dit de cette façon, le philosophe français, « À part nos propres pensées, il n'y a absolument rien qui est en notre pouvoir. » Einstein lui a dit, « Changez vos pensées et vous allez pouvoir changer le monde. » Écoutez bien ce matin ce que la parole de Dieu vous dit. Toute la parole de Dieu vous appelle à marcher sur le dragon, à prendre le contrôle par la grâce de Dieu de vos pensées. Car l'homme est selon les pensées de son âme. Comme un homme pense, ainsi sera-t-il. Ce que tu penses va déterminer qui tu vas être. Celui qui est noble l'est parce qu'il pense à des nobles desseins et parce qu'il persévère dans ses nobles pensées. Marcher sur le dragon, le combat des pensées. À celui qui est ferme dans ses pensées, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. La personne qui met ses pensées vers Dieu, qui remplit ses pensées, à chaque jour, on regarde comment ensemble, dans la présence de Dieu, la parole de Dieu, dans toutes sortes de choses pratiques qu'on garde ensemble, cette personne-là qui remplit son âme de ses pensées-là et qui s'affermit là-dedans, il y a une paix qui est assurée alors qu'elle se confie en Dieu. Le proverbe dit de cette façon, c'est ta réflexion qui veillera sur toi et tes pensées qui te garderont et te protégeront. Suivez-moi bien, je vous dirai de cette façon. Il y a une première étape de réaliser que je dois garder mes pensées, mais de comprendre la puissance qu'il y a dans cette loi spirituelle que si je garde mes pensées, c'est mes pensées qui vont me garder. Que si je protège mes pensées, c'est mes pensées qui vont me protéger. Et qu'il y a des gens qui ne gardent pas leurs pensées et que leurs pensées les amènent à plein de décisions et à plein d'actes qui les détruisent par la suite. Est-ce que vous me suivez? Tournez-vous à la personne à côté de vous et dites-lui, t'es sûr que tu comprends? Dites ça à la personne à côté de vous. Si tu gardes tes pensées vont te garder. Si moi je me préoccupe de mes pensées vont devenir mes gardes, ma protection. Et je veux déclarer ce matin qu'il y a en Dieu tout ce que nous avons besoin pour vaincre le combat des pensées et marcher sur le dragon. Car c'est en Dieu, dit Job, que tu trouveras la sagesse pour tes pensées. Voulez-vous dire à voix haute, c'est en Dieu que je trouverai la sagesse pour mes pensées, car le conseil, la puissance et l'intelligence lui appartiennent. Je déclare par la foi, quel que soit votre arrière-plan, quel que soit ce qui a tourmenté votre âme dans le passé, je déclare sur la force du témoignage de toutes les années à servir Dieu et de centaines qui ont vu cette réalité dans leur vie, que quel que soit le tourment d'avant, quelle que soit la façon dont tu pensais avant, il y a en Dieu et dans les principes de Dieu une sagesse, un conseil, une capacité pour toi de marcher sur le dragon qui marchait sur toi et d'être victorieux sur les pensées. Quelqu'un devrait dire amen. Nous avons vu ensemble que nous marchons sur le dragon. Trois principes simples. Un la semaine dernière, cette semaine, dimanche matin prochain. Tu marcheras sur le dragon dans le psaume 91. Par le repos de sa présence, dimanche matin dernier. Ce matin, la richesse de son pardon. Et la semaine prochaine, la révélation de sa parole. Tu marcheras sur le dragon, afin de marcher sur le dragon, le repos de sa présence, mais cette semaine, la richesse de son pardon. Le psalmiste dit de cette façon, je te délivrerai, je lui ferai découvrir mon salut, je lui ferai contempler mon pardon. Le psalmiste a dit aussi de cette façon, a fait cette déclaration qui est mienne, et qui est celle de plusieurs d'entre vous ici, votre témoignage, il a dit au psaume 94 qui apparaît à l'écran, « Heureux l'homme à qui tu apprends à trouver le repos, à vaincre le dragon, dans le jour de l'angoisse. Si le Seigneur n'avait pas été ma force et ma paix, mon âme se serait enfoncée dans les ténèbres. » Lorsque je dirais, j'étais au bord de glisser, je glisse, je m'effondre, c'est ta présence qui me porte. Et dans la multitude des tourments et des agonies au-dedans de moi, c'est ta consolation qui est devenue un délice pour mon âme. Je vais vous dire que dans le combat spirituel dans lequel nous sommes engagés, très ouvertement et très, très transparent avec vous, une des forces les plus puissantes de l'ennemi, c'est lorsque nous permettons au dragon de nous amener vers le fond par la condamnation, la honte, sentiment de rejet, sentiment de honte, sentiment de « j'aurais donc dû ». Sentiment où le pardon de Dieu devient quelque chose de théologique ou quelque chose que nous savons quelque part intellectuellement. Mais le psalmiste avait compris qu'une des clés pour tuer le dragon, c'est que tu dois avoir cette révélation de son pardon. Tu dois avoir cette richesse de son pardon. Il a dit, tu vas marcher sur le dragon avec toi, je vais être avec toi dans la détresse parce que tu vas contempler le pardon que Dieu a pour toi. Tu vas marcher dans une révélation nouvelle, une dimension qu'il y a des centaines et milliers de personnes qui écoutent le message ce matin, qui vont l'écouter par le truchement de la radio, que le dragon a un accès libre à vous à travers la condamnation. Parce que vous avez été volé jusqu'à ce matin. Et la semaine prochaine, vous avez été volé de la révélation de l'ampleur du pardon de Dieu. J'aimerais vous proposer que certains des moments de ma vie où j'ai atteint les plus bas moments de découragement étaient des moments lorsque je permettais à l'ennemi de mettre la condamnation sur moi. Ça, c'est trop. J'étais tellement de fois au fil des années, j'étais face à face avec des gens qui étaient au bord de tout balancer, de tout faire des choses horribles et terribles. Jusqu'à hier matin avec quelqu'un qui était là, puis parce que sa conviction, un homme de mon âge, sa conviction était, je peux pas, c'est trop tard, j'ai trop fait, c'est de ma faute, c'est pas réparable, c'est impossible, je peux pas recommencer, c'est terminé, je vous dirais son âge, plus jeune que moi, mais il est tellement fort dans ses pensées, cette dimension, et je lui ai dit à lui hier matin, et je vous dis à vous aujourd'hui, qu'il y a dans la parole de Dieu cette promesse de son pardon qui peut repousser les mensonges du dragon et que quelqu'un qui a une véritable révélation du pardon de Dieu est peu à peu et jour après jour délivré de la honte, délivré de la condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Rien ne peut me séparer de l'amour de mon Dieu, ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, mais à travers toutes ces choses. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés des enfants de Dieu. Quelqu'un devrait dire amen. L'apôtre Paul savait tellement que c'était un combat. Il le considérait tellement, il en parle comme un des plus grands combats. Qu'un des plus grands combats pour lequel lui combattait avec les chrétiens, c'est pour quelque chose qui se passait dans leur cœur. Il y avait des persécutions à l'extérieur. Il y avait toutes sortes de choses qui prenaient place autour de Colossie. Mais l'apôtre Paul, le Saint-Esprit était pressant sur lui, lui disant, réalise que le combat un des plus graves, les plus conséquents, c'est un combat dans le cœur de chrétiens qui ne reçoivent pas leur pardon, qui ne s'approprient pas leur pardon. Je veux en effet, Colossiens 2, que je lis pour vous, versets 1 à 3 et 12 à 15. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Pour tous ceux qui sont à l'Odyssée, pour ceux qui n'ont pas vu mon visage en chair, en personne. Regardez, c'est quoi son combat? Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Il y a toutes sortes de choses autour de l'apôtre Paul, dit le combat. Je combats pour vous, pour que vous trouviez la consolation. Puis elle est où cette consolation-là? Qu'il soit uni dans l'amour, enrichi d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu. Lorsque vous lisez le mot mystère dans le Nouveau Testament, c'est pas mystère, c'est pas trouvable. C'est le mot mysterion qui veut littéralement dire quelque chose que tu ne connaissais pas, mais que tu découvres. Quelque chose que tu... Moi, je combats pour que ce que tu savais pas, que tu ne connaissais pas, qui va te donner accès, dans lequel est caché tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Mais regardez bien ce qui est la consolation de nos cœurs. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui. Puis là, pendant cette période-là, ça serait magnifique, je vous dis pas quoi faire, mais dans mes notes, c'est écrit, je suis certain qu'il va y avoir des amens spontanés. J'ai juste écrit ça et on verra ce qui va arriver. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts, en québécois, t'étais fait. T'étais mort. Vous qui étiez morts par vos offenses, il vous a rendu la vie avec lui en nous pardonnant pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte, tout ce qui était contre toi, tout ce qui aurait dû être ta vie, tout ce qui a été dit contre toi, tout ce qui aurait été supposé être ton existence. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. La puissance du pardon de Dieu qui te donne son pardon. Quelqu'un devrait dire amen. Je veux terminer ce message ce matin seulement dans les psaumes. Je veux remercier Judy qui m'a aidé au niveau de la recherche et surtout qui m'a limité. J'ai déjà fait des séries de 8 messages sur le pardon. Lorsque tu plonges dans le pardon, mon problème, c'est que j'ai commencé avec une série sur les psaumes, qui était le psaume 91. On est rendu au message 6 sur le psaume 91. Dites à quelqu'un près de vous, il y a 150 psaumes. Dites à la personne de l'autre bord, on va prendre notre retraite d'un psaume. Et là, juste sur le dragon, c'est le message numéro 3. Et juste sur le pardon, je partirai. Mais je veux simplement prendre quelques instants en terminant pour que vous voyez dans les psaumes la richesse de votre pardon. Tout ce que je fais dans les dernières minutes de ce message, c'est vous annoncer ce que votre billet gagnant vous donne. Je sais que personne s'est caché des billets, mais c'est votre billet gagnant spirituellement. Vous êtes gagnant. Je vous annonce quelque chose. Vous êtes gagnant. Vous avez donné votre vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et les choses qui ont été effacées. Et maintenant, voici les richesses de votre héritage. Quelqu'un devrait dire, c'est à quelqu'un près de vous. Moi, je gagne jamais en plus. Désolé, la personne près de vous. Juste dans les psaumes. Il y a 5 mots hébreux pour décrire le pardon dans les psaumes. Vous pouvez retrouver des centaines de versets sur les psaumes. Il y a 5 mots hébreux, les mots les plus souvent utilisés pour pardon. La richesse du pardon. Un est le mot salak, qui veut dire littéralement épargné, acquitté. C'est lui qui salak, qui pardonne toutes tes iniquités. Tu es bon Seigneur, psaume 86, 5, plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent, et tu salak, tu pardonnes toutes nos fautes. C'est à cause de ton nom éternel que tu salak, pardonneras mon péché, car tu es si grand. C'est toi qui m'as épargné, c'est toi qui m'as acquitté. Pour tous les nouveaux qui sont ici, vous avez besoin de comprendre que la parole de Dieu dit que nous sommes tous coupables devant Dieu. Que Dieu est entièrement pureté, entièrement saint, entièrement vérité, entièrement droiture. Et que dans la scène de l'éternité, ce qui prend place, c'est qu'alors que nous nous présentons devant Dieu, la Bible nous dit qu'il y a l'avocat Jésus-Christ et il y a l'accusateur. Et que l'accusateur se présente pour chaque être humain, qu'il est jour et nuit accusant les frères. Satan nous dit l'Apocalypse, qui jour et nuit accuse. Imaginez cette scène parce que c'est la réalité spirituelle à laquelle vous avez fait face, que nous faisons face. La réalité spirituelle que nous arrivons devant le juge et que, à ce moment, Satan arrive et lance devant le Dieu parfait tout ce qui est secret dans votre vie. Le seul exemple que je pourrais vous donner de ça, c'est qu'avec la technologie, vous savez tout ce que nous avons. C'est extraordinaire, c'est la machinerie que nous avons maintenant, la technologie, parce que ça fonctionne. Et une des choses, des plus derniers cris que nous avons instaurés à l'Église Nouvelle Vie, bougez pas, regardez pas tout de suite, mais sous votre chaise en ce moment, il y a un système qui fait, on a choisi quelques places random, différentes personnes dans la salle. Dans quelques instants, toutes vos actions secrètes du dernier 20 ans vont apparaître à l'écran. On va commencer avec la troisième rangée, numéro. Tous les mensonges, toutes les choses secrètes, toutes les choses que vous voudriez pas que personne sache, toutes les choses qui sont source de honte, toutes les choses, tous les brisements des commandements de Dieu. Des choses véritables. Alors l'accusateur se présente devant Dieu et il donne la liste entière de toutes ces choses-là. Passé, présente et futur, quel que soit votre âge. Il n'y a pas de personne au-delà de crâner publiquement ou d'avoir une façade ou de faire nos arrogants. Dans la solitude de nos cœurs, les êtres humains savent. J'ai rencontré des centaines et centaines jusqu'à hier de personnes qui ne sont pas croyants et qui ont une façade que tout va bien, mais qui, dans la solitude de leur cœur, savent qu'ils sont coupables. J'ai mal agi, j'ai mal fait, j'ai fait du mal. Mais ceci, j'aurais jamais voulu faire ça. J'aurais donc voulu être un meilleur. J'aurais voulu être un meilleur père. J'aurais pas voulu ça. Ça n'a pas terminé. J'aurais jamais pensé que. Et l'accusateur, dans toute sa laideur, c'est un message pour tous les chrétiens qui sont ici. À chaque jour de notre vie, on a le choix, dans nos actions, de se placer sous l'accusateur en accusant les autres, ou de se placer sous l'esprit de l'avocat Jésus-Christ qui, lui, jour et nuit, fait intercession pour les saints. Vous me suivez? Mais le diable met Claude, mais chacun d'entre vous devant le Père, et il dit, regarde tout ce qu'il a fait. Regarde ce qu'il a fait dans son passé, dans son présent, dans son avenir. Regarde ce qu'il a dans ses pensées les plus secrètes. Regarde ce qu'il a dans son passé. Regarde tous les actes qu'il a fait, les mensonges, les vols, les fraudes, les choses qui a brisé tes commandements. Et le Père, qui est totalement vérité et totalement parfait, dit, doit rendre son verdict. Et vous savez que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont coupables. Alors le juge, le Père pur et parfait, lié par sa justice, dit, coupable. Et alors que l'ennemi avait mis ses tentacules autour de nous, ses chaînes autour de nous, et s'apprêtait, et avait pour plusieurs d'entre vous pendant des années, à nous amener dans une vie de tourment et de séparation à Dieu, Jésus-Christ se lève et dit, Père, je sais qu'il est coupable, mais je vais aller mourir à sa place, prendre sa sentence et ressusciter afin que le Père puisse dire, pardonner, acquitter, la sentence est déjà payée. Quelqu'un va dire amen. Vous avez été acquitté. Vous avez été salak, acquitté, pas faute de preuves. Vous avez été acquitté parce que quelqu'un a payé la sentence pour vous et quelqu'un est mort pour vous, ressuscité pour vous et maintenant la puissance de sa résurrection demeure en chacun d'entre nous. Salak, deuxième mot hébreu, kafar, qui veut dire couvrir, annuler, qui veut dire littéralement déchirer une dette. Déchirer une dette. Tu m'as pardonné. Tu as déchiré ma dette. J'avais tout ça contre moi, puis tu l'as fait disparaître. Tu l'as couvert. Tu as déchiré ma dette. Toutefois, dans sa miséricorde, il déchire mes dettes. Il me protège, ne me permet pas à mon péché de me détruire. Il y a 3 semaines, quelqu'un m'a envoyé un petit article du Journal de Montréal d'un homme qui s'est suicidé à Montréal parce qu'il avait tout perdu au casino. Il n'est pas le seul, vous le savez. Hein? Dizaines et dizaines d'hommes à qui ça arrive. Il y a des gens qui sont tellement pris, tellement liés, qu'ils sont tout perdus. Alors, ils vont au casino pour demander au casino de ne plus leur permettre d'entrer. Il y a des centaines d'hommes qui font ça. Le casino prend leurs photos, etc., etc. Signe des papiers comme quoi, laisse-moi plus rentrer. Puis quelques mois plus tard, ils retrouvent ces mêmes hommes-là au casino avec des déguisements, des moustaches, avec des choses parce que ça brûle à l'intérieur d'eux. Cet homme-là s'est suicidé récemment. Il avait plus que tout perdu. Il s'était endetté. Là, ça menaçait sa famille et tout ça. Et dans son désespoir, il s'est suicidé. Puis le Journal de Montréal disait qu'ils l'ont retrouvé. Il a pris toutes les pilules qu'il fallait, puis il est décédé. Qu'ils l'ont retrouvé avec, dans ses mains, sa liste de dettes. Comprenez-vous? Quelqu'un m'a envoyé ça parce que ça allait toucher quelqu'un de l'Église de la vie. Puis moi, je l'ai gardé. Je l'ai à un endroit où est-ce que je prie. Parce que cette personne-là, peut-être que vous êtes jamais, moi, je suis jamais allé au casino de ma vie. Et peut-être que vous n'êtes jamais allé non plus. Mais nous avons tous une liste de dettes, de choses qui nous condamnent, de choses dont nous ne sommes pas fiers, de choses qui sont un poids sur nous, de choses. Et la puissance de son pardon, c'est que le Seigneur dit, j'efface ta dette. Je déchire ta dette. Je me présente devant Dieu. Je dis, Seigneur, je suis à chaque jour imparfait, mais j'ai été. Je fais taire le dragon parce que mon Dieu, dans sa bonté, il m'a capable. Il m'a pardonné. Il a déchiré ma dette. Il me protège et ne permettra pas à ma faute de me détruire. Quelqu'un devrait dire amen. Kafar, protège. Je demande aux musiciens de s'approcher. Naka, purifier, nettoyer, rendre propre et pur. Libre, sans blâme ou culpabilité. La psaume 19 dit quelque chose qui vient nous toucher tellement profondément. Qui aurait pu connaître ce qui m'était caché? Tes serviteurs sont éclairés et ils sont pardonnés. Naka, purifiés, nettoyés, enlevés de leur blâme. Pardonnés des fautes qu'ils ne comprenaient pas. Vous comprenez bien ceci. Saisissez bien ceci. Préserve ainsi ton serviteur d'être arrogant, orgueilleux ou présomptueux. Ce type de pardon Nathan, ce mot-là a une nuance. Et ce psaume 19, il est utilisé dans un psaume où quelqu'un a fait une gaffe. Puis il dit, j'aurais jamais pensé que ça produirait ça. Quelqu'un qui était en voiture, qui avait pris un verre de trop, qui frappe quelqu'un. Quelqu'un qui fait quelque chose, une série de comportements. J'ai jamais pensé que ça produirait ça. J'aurais jamais pensé que ça serait aussi grave. Ça nisse des choses que je ne comprenais pas, des choses que je ne soupçonnais pas. Une des versions dit des choses que je ne connaissais pas. Je ne savais pas, il y a des péchés qui sont faits en connaissance de cause, il y a des péchés qui sont faits, je fais ça, puis il va arriver ça, puis c'est tout. Mais il y a des péchés, des fautes qui viennent nous tourmenter, nous hanter, je savais pas que ça aurait ce résultat-là, je savais pas que ça produirait pas ça, je savais pas. Et dans ce type de péché-là, dans votre famille, dans vos affaires, dans votre pensée, les jeunes qui ont fait des gaffes, qui ont fait des choses graves, ou qui pensaient pas qu'ils étaient graves, mais qui se retrouvent avec des conséquences graves, des jeunes gens de tous les âges. Le psalmiste dit, mon Dieu m'a pardonné. Lorsqu'il y avait des fautes que je ne comprenais même pas la portée ou les conséquences, Dieu est venu et il m'a lavé. Ça adresse le côté des émotions, le côté des sentiments. Il m'a lavé de cette culpabilité. Et il y a quelque chose qui en ressort. Le psalmiste dit, maintenant, Seigneur, garde-moi d'être présomptueux. Garde-moi d'être arrogant et de penser que je ne peux pas tomber demain. Il y a quelque chose que j'ai appris, c'est que oui, tu m'as pardonné, tu me libères de ma condamnation, mais je dois rester proche de toi chaque jour de ma vie. Son pardon qui me lave, qui m'a acquitté. Son pardon qui annule ma dette. Son pardon qui me relève. Et ça, ce mot-là, Nasa, psaume 25, il a vu ma misère, ma douleur, et il pardonne tous mes péchés, Nasa. C'est un terme historique qui voulait dire, c'est toute la pensée du Fils prodigue dans l'histoire du peuple de Dieu dans l'Ancien et Nouveau Testament. C'est la pensée qui avait littéralement, les Hébreux de l'Ancien Testament comprenaient Nassa. C'est un geste qui prenait place dans leur société où quelqu'un qui avait été appelé déshonorable est maintenant appelé honorable à nouveau. Ça a toutes sortes d'exemples dans mon livre d'histoire que j'ai lu là-dessus. Il y a toutes sortes d'exemples. Ça veut dire littéralement tenir dans ses bras afin de rendre honorable à nouveau. Des histoires dans l'Ancien Testament où un fils avait fait des choses terribles, il était maintenant déshonoré, et le père le ramenait, puis disait, hey, ça c'est encore mon fils, le prenait dans ses bras devant tous, puis disait, le chef de clan disait, ça c'est mon fils. Dans le Nouveau Testament, c'est ça qui est arrivé, le fils est allé, et lorsqu'il est revenu, il dit, je suis plus digne de rien, je veux juste être un serviteur, je veux juste être dans la maison, et le père dit, enlève ce vêtement-là, je te remets un vêtement de fils, je te donne la bague, je te mets les chaussures aux pieds, on fait la fête, celui-là, et pas seulement quelqu'un qui est à l'église, mais en a fait des gaffes, et puis pourra jamais, non, c'est mon fils, c'est mon enfant, il est restauré à une place d'honneur devant Dieu à cause de son pardon. Cinquième mot hébreu, Selika, pardon légal reçu afin de revenir. Mais le pardon, psaume 130, pendant que Mélanie va commencer à jouer doucement. Mais le pardon ne se trouve qu'auprès de toi, Seigneur. Si tu gardais le souvenir des fautes, qui pourrait subsister? Savez-vous ce que le dragon fait? Le dragon vient vous tourmenter avec les souvenirs de choses que Dieu, lui, ne se souvient pas. Que Dieu ne retient pas contre toi. À travers l'Ancien et le Nouveau Testament, c'était pour des raisons de péché, de crime, mais c'était aussi dans leur culture à eux. Pour des raisons, par exemple, que quelqu'un avait contracté la lèpre. Il avait été appelé à sortir. Tu ne reviendras plus à l'intérieur. Tu ne seras plus dans le temple, tu ne seras plus dans la maison, tu ne seras plus dans ta famille, tu ne seras plus dans le village. C'est pourquoi, lorsque Jésus guérissait un lépreux, il disait, « Va leur dire, va te montrer au prêtre. » Puis souvent, dans les textes, on n'a pas la pleine compréhension de ce qui se passait vraiment. C'était merveilleux le jour où il est libéré de sa lèpre. Il vivait dans les villes citadelles à l'extérieur de la ville, dans l'isolement et le rejet. Je ne pourrai plus jamais revenir. Jésus le guérit. Il va se montrer au prêtre. Et la scène la plus extraordinaire par toutes les guérisons que Jésus fait, c'est la personne qui, avec abandon, court vers le village. Et les gens se mettent à crier, hey, t'as pas le droit ici, maudit, t'as pas le droit de revenir. Et lui est dans ses mains, non, j'ai reçu mon pardon. J'ai été purifié, je peux maintenant revenir. Si Seigneur, tu te souvenais des fautes, qui pourrait subsister? Personne pourrait être ici. C'est toi qui libéreras ton peuple de toutes ses fautes, car le pardon, c'est Selika, est auprès de toi seul et la libération abonde auprès de toi. Dieu dit ceci et je termine avec ça ce matin. Mon pardon est tel. C'est ça qu'il faut que tu dises au dragon. Je suis pardonné par Dieu et le pardon de Dieu me permet de revenir. Revenir dans la présence de Dieu. Revenir et être le père que Dieu veut que je sois. Être la mère que Dieu veut que je sois. Revenir pour m'emparer de ma destinée. Revenir pour servir Dieu. Revenir au ministère me permet d'avoir un accès libre et de reprendre ma place. Un des auteurs chrétiens que j'affectionne le plus, dont les livres me fascinent, m'édifient, et il y a des gens que tu lis, ça te bénit tout ça, mais il y en a d'autres. Un des auteurs les plus intelligents, les plus profonds, je suis vraiment en admiration devant lui, devant la façon dont il écrit, c'est un homme qui s'appelle Chuck Colson. Si vous lisez l'anglais, il a des livres, Chuck Colson, absolument extraordinaires. Chuck Colson est un homme qui, il y a plusieurs années 70, était un des bras droits du président Nixon pendant le scandale du Watergate. C'est un homme qui a été une star depuis sa jeunesse. Star de football, sauté les allées à l'école, gradué de Harvard et des meilleures universités. Un Marines, la meilleure division de l'armée, parmi une espèce de Delta Force, une équipe spéciale des meilleurs soldats de la meilleure division de l'armée Marines. Et lui, c'est un homme dur, un homme extrêmement capable, qui a passé toute sa vie en politique. Et lui dit que de sa plus tendre enfance, son désir était de faire du bien, d'aider les gens. Et au fil des années, en politique, il s'est retrouvé dans toute une administration où ce que ça a forcé toutes sortes de choses qui ont pris place. On ne parle pas ici de meurtre ou de vol ou de choses comme ça, mais ils ont fait toutes sortes de choses frauduleuses. Toute l'administration complète, quelle était la part de Chuck Colson lui-même, c'est juste lui, l'histoire qui le sait. Et une chose certaine, c'est que ça a forcé le président Nixon à être le seul président à devoir démissionner comme il l'a fait. Et Chuck Colson s'est retrouvé en prison. Alors, il a été dans la honte de se retrouver en prison. Il a tout perdu. C'était un des plus hauts du monde, un des hommes, parmi les 3 ou 4 hommes les plus puissants de son époque. Il se retrouve dans une cellule de prison. Alors qu'il était dans sa cellule de prison, il a dit qu'il a contemplé pendant des mois le suicide. Et finalement, à travers un ami qui lui avait témoigné avant et pendant qu'il était en prison, il est devenu chrétien. Il a donné sa vie au Seigneur, a accepté Jésus dans son cœur et il a reçu le pardon de Dieu. Parce qu'il a dit que ce qui l'a presque poussé au suicide, c'était la condamnation de tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait perdu, tout ce dont il était coupable. Il a, en prison, écrit un livre qui s'appelle Born Again, qui est un livre extraordinaire sur la vie chrétienne. Et tant qu'il a vu les souffrances des prisons autour de lui, lorsqu'il est sorti, il a dit, moi, je vais aider les prisonniers. S'il y a quelque chose qui va sortir, je ne pourrai plus jamais être un politicien, je ne pourrai plus jamais être... Les médias l'ont démoli à travers toute la période qu'il a vécue. Et il a dit, moi, je vais devenir quelqu'un qui va aider les prisonniers. Il a fondé un ministère qui s'appelle, attaché à son église locale, qui s'appelait Prison Fellowship. Il a commencé tout simplement d'aller visiter les prisonniers. Et au fil des années, Dieu a mis une faveur sur lui. Vraiment extraordinaire à la mesure de l'appel qui était sur sa vie. Et cet homme a fondé Prison Fellowship, qui est devenu le plus grand ministère de prison vraiment au monde. Ils sont dans 30 pays maintenant, etc., etc. Puis Chuck Colson, à chaque fois que je l'ai entendu en personne, c'est un grand, c'est un costaud, c'est un gaillard, c'est un homme qui est en politique, un dur de dur. Avec, je ne montre pas d'émotion jamais. Mais il y a quelques années, je pense que c'était en 2000, il a reçu le Templeton Award. Templeton est un milliardaire aux États-Unis qui n'est pas chrétien, mais qui à chaque année donne une bourse de 1 million de dollars à quelqu'un qui fait du bien dans la société. Il a remis le 1 million de dollars pour son organisme à Chuck Colson pour le Prison Ministry. Ce n'est pas un croyant, il le fait, c'est un milliardaire, un philanthrope. Et lorsqu'il est arrivé le moment, moi j'ai le discours que Colson a donné lorsqu'il a reçu son Templeton Award. Mais j'ai lu un témoignage de sa part qui n'est pas dans le discours écrit. Il s'est surpris lui-même. Il a surpris tout le monde, une salle avec tout le gratin qui était là. Lorsqu'on lui a remis son chèque, puis il est venu pour parler, une des rares fois publiquement, qui que ce soit pouvait se souvenir, il n'était pas capable de parler. Tellement ému, les larmes qui coulaient doucement, puis ça a été long avant qu'il puisse parler. Puis ça surprenait lui-même, puis ça essayait de surprendre. Puis finalement, il a dit aux gens, vous me pardonnerez ce moment d'émotion. Mais des années plus tard, jusqu'à aujourd'hui, ça faisait 20-25 ans qu'il servait les prisonniers. Il dit, les médias et tout le monde séculier ne m'a jamais permis d'être une bonne personne. Dans leurs écrits, la manière dont ils me traitent, je serai toujours ce que Puis jusqu'à aujourd'hui, si jamais vous voyez le nom de Colson dans l'actualité, ils vont dire Colson qui était en prison, Colson scandale, Colson Nixon, etc. C'est comme si tout ce qu'il avait fait dans les derniers 20 ans, 25 ans pour Dieu n'existait pas. Ce qu'il a fait pour les prisonniers du monde entier n'existait pas. Puis lui a dit, ce million-là, c'est pas pour lui, c'est pour son organisation. Et j'étais ici debout ce soir et je réalisais que Dieu ne nous traite pas comme les hommes nous traitent. Qu'il m'a permis, malgré tout ce que j'ai fait, il m'a permis de réaliser la destinée qu'il avait mise en moi. Et qu'aujourd'hui, je peux aider des gens jusqu'à la fin de mes jours. Pardonnez-moi, puis après ça, il était dans un discours absolument extraordinaire et éloquent qui articule la pensée chrétienne magnifiquement. Mais savez-vous ce que Colson disait en fait? Il disait, j'ai été pardonné, c'est le cas. Dieu m'a permis de revenir. Les gens qui sont ici ce matin, qui ont besoin de revenir. Vous avez besoin d'être libérés. Revenir à l'espoir, à la foi, à une confiance. Revenir à la maison de Dieu. Revenir à un endroit où vous êtes libérés d'un poids qui vous écrasait. Un poids sur votre passé, sur les gaffes et les erreurs, les choses qui sont irréparables. La personne avec qui je parlais hier matin, je plaidais avec lui parce qu'il disait, c'est pas réparable, je peux plus réparer ça, j'ai vécu tel divorce, telle situation, c'est fini, je peux plus, j'ai perdu ça, c'est fini, j'ai tel âge, j'ai perdu ces années. Les choses qui sont irréparables. J'essayais de toutes mes forces de lui communiquer. Le pardon de Dieu te prend où tu es aujourd'hui et peut te permettre de marcher sur le dragon et de trouver une paix, un espoir, et de trouver une force, et de trouver toutes sortes de possibilités que tu peux même pas imaginer, de plans magnifiques que Dieu a de préparer pour toi. Alors ce matin, je vous remercie de m'avoir écouté si attentivement. Je vais vous demander une dernière faveur. Je vais demander à tout le monde de pencher la tête et de fermer les yeux pendant un moment. Je demande aux croyants de prier profondément. Nul n'est comme toi. Nul n'a su m'aimer autant que toi. Je pourrais chercher pour l'éternité et voir que nul n'est comme toi. Ce matin, je veux m'adresser, pendant que tous les chrétiens prient passionnément dans leur cœur, je veux m'adresser à trois catégories de personnes dans ce lieu ce matin. Pendant que Mélanie joue tout doucement. Si vous êtes ici ce matin, vous dites, j'ai déjà connu le Seigneur, mais je me suis éloigné de lui. Ce matin, j'ai besoin d'une révélation de son pardon. Je veux recevoir le pardon de Dieu. Ce pardon qui me permet de revenir. Ce pardon qui déchire la dette du passé. Ce pardon qui me lave. Ce pardon qui dit, tu peux revenir. À ma présence, à moi, à ma joie, à mes plans. Et peut-être que vous avez quitté les églises. Ou peut-être que vous êtes resté assis à l'église pendant tout ce temps-là. S'éloigner n'est pas quelque chose qui est physique. Souvent, c'est quelque chose qui est bien dans nos cœurs. Personne ne le sait, mais c'est dans nos cœurs que ça a pris place. Si vous êtes ici ce matin et vous vous êtes éloigné de Dieu et vous voulez revenir à son pardon, revenir au Seigneur, j'aimerais vous demander là où vous êtes de dire, me voici Seigneur, je veux recevoir ton pardon. Le dragon me tourmentait. J'essayais de le faire taire, j'essayais de m'étourdir, j'essayais de ne pas y penser, mais le dragon me tourmentait. Mais ce matin, je vais marcher sur le dragon parce que je vais contempler et recevoir son pardon. Tu as effacé l'acte qui avait été rédigé contre moi. Tu as effacé les ordonnances qui étaient préparées pour moi. Je reçois ton pardon. Je suis acquitté. Tu déchires ma dette. Tu me laves. Tu me prends dans tes bras et tu dis, ça c'est ma fille. Avez-vous compris, tout le monde? Ça c'est ma fille. Ça c'est mon fils. Et Seigneur, tu me permets de revenir. Si vous êtes ici ce matin et vous dites, je m'étais éloigné de Dieu, j'étais rétrograde dans mon cœur ou en action, mais je veux revenir au Seigneur, j'aimerais vous demander de lever votre main et de dire, me voici. Les gens partout à travers ce lieu vont revenir à Dieu et recevoir, oh, il y en a tellement partout dans la salle. Alléluia! Oh, cher monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, le pardon de Dieu va être comme une eau fraîche. Vous pouvez baisser vos mains. Qui va t'abreuver comme une eau qui va te laver, tu vois, ses bras qui vont te serrer. Deuxième catégorie de gens, si vous êtes ici ce matin et vous n'avez jamais reçu le pardon de Dieu,
jamais accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur, votre Sauveur. Et ce matin, vous dites, c'est mon matin. Je ne vous parle pas de vous joindre à une autre religion, de changer de religion, pas du tout. Je vous parle de recevoir le pardon de Dieu pour vous-même. Vous dites, je n'ai pas la folie, l'orgueil, la prétention de dire, non, moi je crois pas à l'existence de Dieu. Moi, je crois pas. Moi, je crois même pas que j'ai besoin d'être pardonné. Moi, j'ai jamais péché. Dans la solitude de votre cœur et dans la vérité de votre âme, vous dites, j'ai besoin de son pardon. Et ce pardon-là est reçu dans la personne de Jésus-Christ. Vous dites, je l'accepte comme vous l'avez, comme la parole de Dieu l'a expliqué, que c'est moi qui étais coupable, mais c'est lui qui est mort. Et lorsqu'il est ressuscité, il a payé ma peine. Et maintenant, lorsque je reçois par la foi ce que lui a fait pour moi, en 2005, comme des millions de chrétiens à travers le monde, je marche maintenant. Et maintenant, toute la puissance de la résurrection est quelque chose qui est au-delà de mes forces qui m'entre en moi, qui est en moi. Je vais devenir le temple de l'Esprit de Dieu. Je vais te pardonner. La condamnation est enlevée. Elle est effacée. L'acte contre moi est enlevé. La honte, le rejet s'efface. La confiance, l'assurance, l'espoir m'entre dans mon cœur. Si vous êtes ici pour les premières fois ou ça fait plusieurs mois que vous venez, vos parents sont chrétiens, tes parents sont chrétiens, ton épouse est chrétienne, ton mari est chrétien, tes fils, tes parents ou tes enfants le sont. Mais toi, personnellement, c'est ton matin, le 4 septembre 2005, tu dis, je veux recevoir le pardon de Dieu. Si c'est votre désir, là où vous êtes, pour la première fois, j'aimerais vous demander de lever votre main, de mettre votre main dans la main de Dieu et dire, me voici, il y a une dame qui est là, monsieur qui est là, complètement à l'arrière, vous pouvez baisser votre main. Quelqu'un d'autre lève sa main et dit, me voici, Seigneur, monsieur qui est là, que Dieu vous bénisse, monsieur. Dieu connaît tout de vous. Quelqu'un d'autre lève sa main, je veux mettre ma main dans la main de Dieu, complètement à l'arrière. Un autre homme, une autre femme qui dit, me voici, je veux mettre ma main dans la main de Dieu. Quelqu'un dirait, pasteur, dimanche avec ça, fais du travail, il y a plein de gens en vacances. Oh, mais le Seigneur n'est pas en vacances. Il connaît votre cœur ce matin, il connaît tout de vous. Plusieurs personnes qui ont levé la main. La dernière chose que je vais demander, si vous êtes ici, vous êtes un chrétien, mais vous dites, j'ai besoin d'une révélation du pardon de Dieu. Je veux être libéré de toute forme de condamnation. Je réalise que le dragon m'attaque au niveau de la condamnation, que je ne pourrais pas revenir, que je ne suis pas digne devant lui, que j'ai fait des gaffes terribles. Ce matin, je refuse sa condamnation. Je veux recevoir une révélation par le Saint-Esprit du pardon de Dieu dans ma vie afin d'être libéré. J'aimerais vous demander de lever votre main et dire, « Mais voici, Seigneur, nous allons nous lever ensemble dans sa présence. Et alors que nous allons chanter, nul n'est comme toi, j'invite les conseillers à s'approcher tout de suite. J'aimerais demander à tous ceux qui ont levé, écoutez-moi bien un instant. S'il y a quelqu'un près de vous qui ne connaît pas le Seigneur, sans le forcer, s'il y a quelqu'un qui a levé sa main ou qui aurait dû lever sa main, vous êtes croyant, pouvez-vous lui dire avec douceur, si tu veux, j'y vais avec toi, on s'avance ensemble. Et que tous ceux qui ont levé la main, j'aimerais vous conduire dans une prière, ceux qui ont levé la main pour recevoir le pardon de Dieu, une révélation de son pardon, pour revenir à lui ou pour venir à lui pour la première fois, tous ceux qui ont levé la main, toutes celles qui ont levé la main, celles et ceux qui auraient dû lever la main. Pendant que nous allons chanter le pardon de Dieu, j'aimerais vous inviter à vous approcher. Et toute l'Église, comme une grande chorale, vous approchez ici devant moi, face à moi. Toute l'Église, comme une grande chorale, est-ce qu'on peut chanter ensemble le pardon de Dieu? La richesse du pardon de Dieu qui nous permet de marcher sur le dragon. Nul n'est comme toi, Seigneur. S'il y a quelqu'un près de vous qui a besoin de répondre à cet appel, approchez-vous avec lui, approchez-vous avec elle. Et recevons ensemble la richesse de son pardon. Oh, nul n'est comme toi. Ensemble, nul n'est comme toi. Oh, nul n'a su m'aimer autant que toi. Venez, tous ceux qui ont levé la main, ceux qui auraient dû lever la main, venez ce matin, le Seigneur vous appelle.
Pour l'éternité et voir que nul.
L'Esprit de Dieu vous appelle. Ouais, l'équipe d'adoration va le chanter. Venez ce matin, venez. L'Esprit de Dieu vous appelle, monsieur. Jeune homme, jeune fille, viens recevoir son pardon. Viens recevoir son pardon. Seigneur, attire des hommes et des femmes à toi, maintenant. Refusez la culpabilité. Refusez la honte. Refusez de marcher sans son pardon. Il y a des gens qui continuent à s'avancer.
Nous
chantons une dernière fois ensemble pendant que vous vous approchez.
Oh, nul n'est comme toi.
Venez, monsieur. Venez, madame, jeune homme, jeune fille. Avancer en si grand nombre. Je vais vous conduire dans une prière et toute l'Église va la prier avec vous pour que vous sachiez que nous sommes avec vous dans ce moment le plus important de votre vie. Ce n'est pas la répétition qui compte, mais votre sincérité. J'aimerais que des conseillers s'approchent. Il y a plusieurs personnes qui sont avancées, qui sont seules. Je peux avoir des hommes, des croyants qui viendraient prier avec ces hommes et ces femmes qui sont seuls ici à l'avant. Il y a un grand nombre de personnes qui sont avancées. Nous avons besoin d'avoir quelqu'un qui prie avec chacun d'entre eux, chacune d'entre elles. Est-ce qu'on peut prier tout le monde ensemble? Vous qui avez, vous êtes avancé, toute l'Église se joint à vous pour prier. On peut prier tout le monde ensemble en disant, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reviens à toi. Je te demande pardon pour toutes mes fautes et tous mes péchés. Je reçois Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te demande pardon. Je reçois ton pardon. Je suis ton enfant. Tu me laves, Seigneur, et tu me libères de toute culpabilité. Rien ne pourra ne me séparer de ton amour dans le nom de Jésus. Et Seigneur, maintenant que ton esprit témoigne à leur esprit qu'ils sont pardonnés, Seigneur, qu'ils sont enfants de Dieu, qu'à partir de ce jour, tu as écrit leur nom dans ton livre de vie, que rien ne pourra l'effacer, rien ne pourra les séparer de toi, que toute culpabilité du passé est disparue, la dette est déchirée, ils sont acquittés, et ils sont maintenant appelés fils et filles de Dieu. Et je te prie maintenant, Seigneur, avec un cœur qui explose de joie, parce que, Seigneur, si un seul homme avait répondu à cet appel, une seule femme y aurait répondu, tout le ciel aurait éclaté en allégresse. Alors nous joignons aux anges du ciel pour applaudir le plus grand de tous les miracles, des hommes et des femmes qui reviennent et viennent à toi. Alléluia. Vous qui vous êtes approchés, nous allons vous remettre une Bible et un Nouveau Testament gratuitement en cadeau. Vous êtes pardonnés, vous êtes aimés ce matin par le Seigneur.
Enseignement.com.
Enseignement.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignement.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissances.
Enseignement.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.